en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, en habit vert vous propose aujourd'hui la rencontre d'une physicienne qui marqua d'une pierre blanche une discipline qui débuta officiellement en France en 1958, l'aéronomie. L'aéronomie, en quelques mots, c'est l'étude des propriétés physiques et chimiques de la haute atmosphère, c'est-à-dire de la partie de cette atmosphère où l'action directe du rayonnement solaire est la source principale de l'énergie. C'est d'ailleurs ce qui différencie l'aéronomie de la météorologie, étude de la partie de l'atmosphère à basse altitude où la source principale de l'énergie, cette fois-ci, est le rayonnement de la Terre elle-même. Ainsi, l'aéronomie vise à connaître et comprendre l'action de l'énergie solaire constituée de rayonnements électromagnétiques et de particules énergétiques sur l'oxygène et l'azote raréfié, mais aussi l'effet de cette action sur l'état et les mouvements de l'atmosphère considérés d'un point de vue macroscopique. Comme je vous le disais à l'instant, cette discipline a été pleinement mise en valeur en France par le service d'aéronomie créé en 1958 par le professeur Jacques Blamont, première école de l'espace. Parmi les élèves de l'époque de Jacques Blamont, qui ont mesuré la température, le vent et les turbulences de la moyenne et haute atmosphère, Marie-Lise Chanin. Marie-Lise Chanin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Si j'ai commencé en introduction par quelques mots sur l'aéronomie dans cette émission d'habit vert, c'est parce que vous avez effectué une grande partie de votre carrière aux côtés de Jacques Blamont, que vous avez vu naître ses services d'aéronomie et que vos travaux sur la structure et la dynamique de la haute atmosphère, les interactions entre troposphère et stratosphère, mais aussi l'augmentation du dioxyde de carbone dans la stratosphère et la mésosphère, et enfin l'influence du rayonnement solaire sur le réchauffement de l'atmosphère, ont fait avancer la science dans ce domaine, et encore plus que jamais d'actualité à ce jour. Vous avez travaillé pendant une très grande partie de votre carrière avec le professeur Blamont, mais vous vous êtes également engagé depuis les années 80 dans plusieurs comités scientifiques, internationaux et nationaux, comités scientifiques de recherche et de veille sur l'atmosphère tels que l'IGBP, l'ICSU, International Council for Science, le SPARC que vous avez dirigé pendant 12 ans, et d'autres. Nous en reparlerons au cours de cette émission. Mais commençons, si vous le voulez bien, Marie-Lise Chanin, quelques années en arrière. Comment l'étudiante aux Beaux-Arts, puis à l'architecture que vous étiez dans les années 50, s'est retrouvée à travailler dans le premier laboratoire spatial en France créé par Jacques Blamont ?
Eh bien, malheureusement, je n'étais jamais encore devenue à cette époque-là étudiante aux Beaux-Arts, car c'était une velléité, mais qui n'a pas pu être réalisée, car mes parents s'y étaient opposés. Et c'est grâce à cette opposition, finalement, que j'ai fait de la science. Donc, je me suis retournée vers une licence de mathématiques, avec évidemment les composantes physiques qui étaient nécessaires à l'époque. Et j'ai eu la chance d'avoir comme professeur des maîtres de premier plan comme Alfred Kastler, Jean Brossel. Et c'est pour cette raison que je suis allée voir Jean Brossel pour aller faire une thèse avec lui. Et c'est Jean Brossel qui m'a dirigée vers Jacques Blamont, un de ses élèves, qui crée exactement cette année-là le service d'aéronomie et qui donc était en pleine embauche de jeunes chercheurs. Et donc je me suis retrouvée en septembre 1958, au lieu de faire mes études d'architecture que j'aurais souhaité, à commencer une thèse au service d'aéronomie. Et j'ai eu la chance de démarrer dans une discipline qui commençait, qui était toute jeune, et avec les premiers tirs de fusée en France, donc au début de l'ère spatiale en France.
Donc on va y revenir. Est-ce que c'est le hasard de la vie qui vous a mené jusqu'à Jacques Blamont, ou est-ce que quand même vous étiez déjà intéressé par ce domaine-là ?
J'avais eu une passion pour la physique, c'est clair, j'avais une passion pour la physique et surtout depuis la lecture du livre de Breuil qui m'avait beaucoup influencé, Ondes et Lumières.
Louis de Breuil.
Et j'avais été voir deux personnes en fait, le labo Kastler, c'est-à-dire Kastler et Brossel, et le prince Ringuet. Et j'ai hésité entre les deux branches, l'une finalement la physique atomique que j'ai faite et l'autre la physique des particules. Et je ne regrette pas. J'ai une vie passionnante. Je ne sais pas ce qu'aurait été l'autre, mais je ne regrette rien.
Alors, le service aéronomie est créé en 1958. Ça correspond également un an plus tôt, je crois qu'il y avait l'année géophysique internationale. Donc, c'est à cette occasion-là que le laboratoire a pu s'ouvrir, a pu ouvrir ses portes.
Exactement. L'année géophysique internationale, dont on a fêté, finalement, les deux dernières années, le cinquantenaire, a été un événement très important parce qu'il coïncide avec le début de l'ère spatiale. Le lancement du Sputnik était en 1957. Et la décision par l'IXU de lancer une année de recherche internationale sur la géophysique a mobilisé les énergies de part et d'autre. En France, Jean Coulon a joué un rôle très important dans l'organisation de cette année géophysique internationale. Et Blamont a été chargé des tirs de fusée qui accompagnaient cette année géophysique internationale. Et c'est effectivement avec lui qu'ont eu lieu les 15 tirs de Véronique à Colombéchard, qui a été le début de ma carrière.
Et on va en parler tout de suite. Vous commencez à travailler donc avec Blamont. Vous êtes 5 thésards au total, avec très peu de moyens. Hein, vous faites avec les moyens du bord.
Oui, nous avons 40 mètres carrés à l'école normale que Castier très gentiment avait prêté à Blamont. 5 thésards, une table chacun. Même on se partageait les tables à deux. Et peu de moyens, surtout peu de personnes pour nous aider. Nous n'avions pas de mécanicien, nous faisions nous-mêmes nos appareils. C'était une époque assez merveilleuse parce qu'il fallait tout faire. Mais d'un certain côté, on apprenait aussi à faire les choses, ce qui nous a donné après la possibilité de diriger des gens parce qu'on savait exactement ce qu'on voulait leur faire faire. Donc on a démarré très vite et 6 mois après, on était sur le terrain. Donc,
sur le terrain et lancement donc, d'une première fusée.
En mars 59, la première campagne de tir, qui a été un grand succès, c'était le lancement des 3 premières Véroniques, dont l'une a donné d'ailleurs lieu à un nuage de sodium qui est resté dans les mémoires parce que c'était le plus beau qu'on ait jamais vu. Et nous avons réussi ce jour-là à faire vraiment des découvertes. Enfin, quand je dis nous, c'est-à-dire le Blamont et son labo, notamment la découverte de la turbulence et les premiers essais de mesure de vent et de température.
Alors, vous parliez de fusée à l'instant. Pourriez-vous en dire un peu plus à nos auditeurs sur cette question de fusée?
Il s'agissait évidemment de toutes petites fusées par rapport à ce dont imagine, on appelle ça des crayons bic aujourd'hui. C'est des petites fusées qui faisaient une dizaine de mètres, qui étaient un petit peu tenues avec des ficelles en fait. La Véronique était la première fusée française, elle était issue des V2 en fait, allemands. Et nous en avons lancé une quinzaine. Elle fonctionnait à l'acide nitrique. C'était un petit peu, quelquefois un petit peu dangereux. Il y avait quelques épisodes, il y a eu quelques épisodes un peu critiques où il a fallu vider le réservoir et c'était pas des choses qu'on avait envie de faire tous les jours. Mais d'une façon générale, elles ont très bien marché. Donc, ce départ modeste de la France en recherche spatiale a été un tel succès que, évidemment, très vite, ça s'est amplifié et on est passé à des fusées comme les Centaures. Puis, très rapidement, évidemment, d'autres fusées en France se sont développées.
Marie-Lise Chanin, donc, ces fusées, elles permettent de mesurer le sodium dans l'atmosphère.
L'idée était qu'il y avait très peu d'engins qui étaient allés dans la haute atmosphère, au-delà des radiosondages qui montaient à 20-30 km, et on connaissait très mal la haute atmosphère. Et donc, ces premières fusées qui montaient vers 100-150 km, puis un peu plus haut ultérieurement, permettaient de mesurer des paramètres de la haute atmosphère. On pouvait mettre des sondes, de mesure de température, par exemple. Mais l'idée de Blamont a été hériter de ce qui avait eu lieu aux États-Unis, de fabriquer des nuages de sodium et d'observer finalement l'émission de sodium qui en résultait au crépuscule, lorsque le sodium était excité par le rayonnement solaire. Et à partir de cette lumière, on pouvait déduire les vents, parce qu'on voyait la forme du nuage se déformer, la température, parce qu'on mesurait la largeur de l'arrêt. Et on a même découvert un autre phénomène qui n'était pas prévu, c'est-à-dire la turbulence qui déformait ce nuage. Donc c'était un traceur. Et ce traceur avait l'avantage par rapport à une fusée qui aurait mesuré juste le long de la trajectoire de durer un certain temps, de l'ordre de 20 minutes à une demi-heure suivant la saison. Et donc on pouvait suivre l'évolution d'un phénomène. Donc c'était très intéressant parce qu'il y avait une certaine étude de la dynamique déjà à cette époque-là. Évidemment, elles étaient limitées au crépuscule. Et puis elles étaient limitées à 150 km parce que les fusées en France, les Véroniques, puis les Centaures ultérieurement ne montaient qu'à 150 km. Mais nous avons très vite été invités par les Américains, la NASA, qui avait mis à notre disposition des Javelines qui montaient à 500 km. Et donc déjà en 1960, c'est-à-dire 2 ans après le début du laboratoire, nous étions sur le terrain à Wallops Island à mesurer les températures de l'atmosphère jusqu'à 500 km. C'était un tout début, c'était vraiment des précurseurs.
Alors justement, vous parlez de Wallops Island. Pendant les années 1960 jusqu'à 1965, se succèdent une série de campagnes. Vous partez en Algérie, dans le désert, à Amaghir, à Wallops Island. Vous partez aussi en Russie, au Pakistan. C'était l'occasion de faire de beaux voyages ou au contraire, c'était assez physique?
Oh, ça a été une occasion formidable. D'abord, la découverte du Sahara. Il faut reconnaître que les missions que nous avons faites tous, les jeunes chercheurs à Colombéchard et à Maguire dans les années 60 et jusqu'en 66, nous ont fait découvrir un pays qu'on n'oubliera jamais. La beauté du Sahara est quelque chose qui nous a beaucoup et profondément marqué. Alors malheureusement, ça a dû s'arrêter, puisqu'en 1966, après les accords d'Évian, la France a été obligée d'abandonner, d'arrêter le champ de tir de Maguire. Et nous avions été invités, comme on l'a dit, à Wallops Island. Nous sommes allés en Inde également, parce qu'il y avait un champ de tir à Tumba, près de l'équateur, et cela nous permettait d'étudier la variation des paramètres en fonction de la latitude. Et puis à l'autre extrême, à l'île François-Joseph, à l'île de Heiss, en terre François-Joseph, 80 degrés de latitude nord, pour avoir une mesure au pôle nord. Donc en fait, on a eu plusieurs sites. C'était effectivement très excitant pour des jeunes de participer à ces campagnes en différents points du globe, quelquefois assez difficiles. Les conditions n'étaient pas toujours très confortables. Je me souviens de campagnes à Fort Churchill au Canada où on était dévorés par les moustiques. Bon, les conditions n'étaient pas toujours favorables. Nous revenions épuisés, mais en général ravis.
À Wallops Island, justement, je crois que vous arrivez à mesurer, justement, vous constatez une différence de température assez impressionnante de 400 degrés à deux intervalles différents. Et vous cherchez justement à vérifier vos résultats pour voir s'il n'y a pas une erreur.
Alors ceci était vraiment un coup de chance extraordinaire parce que nous avons fait deux campagnes à un peu moins d'un an d'intervalle, enfin 60 et 61, au moment de la décroissance de l'activité solaire. Et la première année, et je mesure une certaine température, l'année d'après 400 degrés de moins, et Blamont me renvoie à mes tablettes en me disant « Écoutez, c'est pas possible, il y a une erreur, ça ne peut pas faire une telle différence, etc. » Et quand nous avons pu confirmer qu'il s'agissait véritablement d'un changement, c'était la première démonstration de l'influence du flux solaire sur la haute atmosphère. Il s'agissait de mesures à haute altitude, et donc dans une partie qui est très influencée par l'activité solaire.
Et justement, alors l'occasion de faire une aparté, hein, vous me donnez là la possibilité de faire une aparté sur l'influence des rayonnements solaires sur, aujourd'hui on parle du réchauffement climatique. Alors justement, au regard de vos informations, que peut-on dire sur l'influence des rayonnements solaires ?
Eh bien, autant le rayonnement solaire a une très forte influence dans les hautes couches de l'atmosphère parce que le rayonnement ultraviolet est fortement modulé par cette activité solaire avec un cycle de 11 ans, autant le rayonnement ultraviolet étant absorbé d'abord par l'oxygène moléculaire puis par l'ozone, il en pénètre extrêmement peu au sol. Et donc la partie qui pénètre au sol est très peu modulée par l'activité, par le cycle de 11 ans. La modulation est 0,1%, c'est-à-dire 1 pour 1000, et influence peu le climat. Elle l'influence un peu, d'une façon qui est complexe et qui n'est pas encore bien comprise aujourd'hui, mais c'est évidemment pas un des éléments très importants dans la variabilité du climat. Il existe, mais il est relativement faible.
Voilà, comme ça, on a votre avis sur la question. Enfin, même pas votre avis, mais l'explication sur la question. En 1961, juste pour revenir un petit peu en arrière, correspond aussi la création du CNES, à l'époque où vous faites de grandes campagnes. Donc, il y a la création du CNES. Quelle est la différence entre le CNES, en tout cas les spécificités du CNES, et les spécificités du service aéronomie ?
Oui, il s'agit de deux structures vraiment différentes. Le service d'aéronomie est un laboratoire propre à ce moment-là du CNRS, c'est un laboratoire de recherche pure. Et les moyens nous provenaient à ce moment-là, avant la création du CNES, purement uniquement du CNRS. Et d'ailleurs un peu des militaires. Mais la création du CNES, qui a été fortement inspirée par Blamont, et d'ailleurs le premier directeur en a été le général Laubinière, que Blamont a fait rencontrer à Colombéchard. Il était directeur du centre d'essai de Colombéchard. Le CNES était une agence de moyens, en fait. Donc le CNES a très vite été une structure qui nous a fortement soutenus, qui aurait voulu nous absorber comme laboratoire interne du CNES, mais Blamont a beaucoup lutté pour que ces laboratoires restent des laboratoires spécifiquement universitaires et CNRS, ce qu'ils sont restés. Alors, le service d'aéronomie était le seul, très rapidement il y en a eu d'autres qui se sont créés, et ces laboratoires sont devenus des laboratoires sélectionnés du CNES, supportés par le CNES, mais indépendants du CNES. Et je crois que cette structure qui a prévalu a été un très grand succès. Alors le CNES a été évidemment et reste notre grand soutien sur le plan des moyens. À l'heure actuelle, la plupart des structures des satellites qui se font sont faites dans le cadre du CNES. Il n'y a pas de problème. Et les fusées sont mises évidemment à notre disposition par le CNES.
Et je crois que la création du CNES donc, était dirigée par De Gaulle à l'époque. Justement, le CNES a été créé au regard des résultats impressionnants que vous avez obtenus.
Absolument. Après la première campagne à Colombéchard, De Gaulle a été très impressionné par le résultat et a décidé que la France allait être un pays spatial, c'est-à-dire le leader finalement de l'Europe dans le domaine spatial. Et la France a été pendant très longtemps et est d'une certaine façon le pays d'Europe qui a la plus grande ambition spatiale en fait. Et il y a eu très rapidement le choix de la station de Kourou après l'abandon d'Amaguir pour y installer la base de lancement. Et on voit que Kourou est maintenant la base européenne et même internationale, la plus proche de l'équateur et donc fortement utilisée.
Marie-Lise Chanin, on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer les leaders. À tout de suite.
Installez-vous à la table de Canal Academy. Découvrez nos émissions en compagnie d'Hervé Tisse avec sa cuisine moléculaire. Pierre Feillet vous livre 5 scénarios possibles pour votre assiette en 2030. Jean-Marie Bourg pèse le pour et le contre des oméga-3. Et Robert Anton vous aide à y voir plus clair sur des compléments alimentaires. Sans oublier la chronique gastronomique de Jean Vito. Des émissions en libre écoute et téléchargement sur Canal Academy.
Suite de notre émission En habit vert en compagnie de Marie-Lise Chanin. Dans cette deuxième partie d'émission, Marie-Lise Chanin, je le disais juste avant la pause, que nous allions évoquer l'arrivée du LIDAR, la télédétection par laser aéroportée. Il va falloir que vous nous expliquiez ça tout de suite. Ça arrive juste après les fusées, puisque vous nous le disiez juste avant la pause, en 1966, on arrête les essais, les tirs. Et justement, arrive à cette occasion les LIDAR qui vont permettre de poursuivre les recherches dans le domaine de l'aéronomie. Avant toute chose, pourriez-vous nous dire ce que sont les LIDAR ?
Oui, c'est très facile. Tout le monde sait ce qu'est un radar. Un radar, c'est évidemment, ça utilise les ondes radio qui se propagent dans l'atmosphère et qui reviennent au sol, qui permettent de prospecter la distance qui a été parcourue par les ondes radio. Et le LIDAR, c'est essentiellement la même chose avec des longueurs d'onde visibles. Light Detection and Ranging, c'est-à-dire détection par laser pulsé, qui permet de détecter, d'avoir une résolution verticale du signal qui est en train de nous revenir. Alors, pourquoi est-ce qu'on est passé au LIDAR vers les années 66 ? L'invention des lasers date de quelques années auparavant, mais vers 65-66, on commence à arriver des lasers à fréquence accordable. C'est-à-dire qu'on pouvait choisir la longueur d'onde d'émission du laser. Et on pouvait donc fabriquer des lasers qui allaient coïncider avec des raies de résonance, par exemple, puisque nous étions traversés vers l'utilisation du sodium, on a pu fabriquer des lasers qui correspondaient à la raie de résonance du sodium, puis après d'autres alcalins que nous aimions, le potassium, le lithium, ouais, etc. Et cette idée que Blamont eut de nous faire développer des lidars a commencé donc dans ces années. Le sujet a été confié à Mégy, à Gérard Mégy, qui venait de rentrer au laboratoire et qui a effectué sa thèse sur la détection, enfin le développement d'un lidar sodium et la détection du sodium par LIDAR. Et j'ai travaillé avec lui dès ce moment-là et pendant une vingtaine d'années sur le développement de la technique LIDAR pour laquelle la France a été effectivement un des pionniers. Alors, cela permettait, à partir du sol, finalement, d'éviter des lancements de fusées, donc d'avoir accès à l'atmosphère beaucoup plus facilement et de pouvoir décrire l'atmosphère avec une résolution verticale qui, suivant les processus utilisés, allait couvrir des altitudes assez différentes. Alors, au début, nous avons commencé par la détection des alcalins parce que c'était nos enfants chéris. L'école Kassler se prolongeait. Donc, après la thèse de Mégy sur le sodium, nous avons continué sur les autres alcalins. Et cela devenait de plus en plus difficile parce qu'ils étaient moins nombreux dans l'atmosphère. Et donc, en devenant de plus en plus pointu sur la détection de ces espèces qui étaient présentes à raison d'un atome par centimètre cube, on a réussi à s'apercevoir qu'on pouvait détecter toutes les molécules de l'atmosphère, donc la densité de l'atmosphère, jusqu'à une centaine de kilomètres. Et ça a été aussi, à ce moment-là, le développement d'une nouvelle technique LIDAR qui a permis de mesurer la température, la densité, donc la température de l'atmosphère jusqu'à une centaine de kilomètres. Et j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là avec mon collègue Alain Hochkorn. Et c'est une mine d'or parce que nous avons pu décrire l'atmosphère avec toute la résolution spatiale et temporelle dont on avait besoin pour étudier les phénomènes de très courte échelle, de très courte période, puis également les phénomènes de longue période comme les variations à long terme ou les variations avec le cycle solaire. Donc, c'était vraiment une mine de beaucoup d'informations et de beaucoup de publications.
Et aujourd'hui, des travaux qui sont encore cités assez souvent même.
Qui sont non seulement cités, mais la base de données des données LIDAR-RELAY a cette année 30 ans. Nous allons d'ailleurs célébrer les 30 ans de cette base, qui est la seule base de mesure continue de la température entre 30 et 90 km, et qui nous a permis de détecter le refroidissement de la stratosphère et de la mésosphère, dû au changement climatique, en fait, c'est-à-dire à la la croissance du CO2 et à la diminution de l'ozone. Oui, oui. Et donc, c'était une signature, disons, des changements climatiques dans la stratosphère et dans la mésosphère qui n'avaient pas été détectés avant ces mesures. Nous avons aussi pu continuer nos études sur l'influence de l'activité solaire sur la haute atmosphère, puisque nous la voyons très bien se vérifier sur ces hautes couches de l'atmosphère, ce qui est normal puisque le rayon ultraviolet, les rayonnements ultraviolets y pénètrent.
Je crois aussi qu'à travers l'arrivée de ces nouveaux outils, arrive la réponse à une question, à savoir ce sodium, d'où vient-il ? Est-il d'origine météoritique ou d'origine marine ?
On a vraiment, à partir de la mesure de ces différents alcalins, il a fallu mesurer effectivement sodium, lithium, potassium, etc., pour tout comprendre. Et la modélisation a permis de tout expliquer, à la fois l'origine marine, météoritique, mais aussi le rôle des ions dans la structure et la disparition, disons, la durée de vie de ces espèces dans l'atmosphère. Donc c'est un problème qui, dans les années 80, à mi-80, a été quasiment résolu et qu'on a en grande partie abandonné. Il faut reconnaître qu'il y avait aussi d'autres problèmes qui nous attiraient plus bas du sol, plus bas que la haute atmosphère. Et dans les années 70, il ne faut pas oublier que le problème de l'ozone est arrivé. Ça a beaucoup modifié les travaux au service d'aéronomie.
Justement, j'allais vous poser la question. Sur la fin des années 70, effectivement, on découvre ce trou de la couche d'ozone en Antarctique. Et j'imagine que cette découverte va modifier les crédits qui vous sont donnés, sont peut-être alloués à ces recherches plus spécifiquement en matière d'ozone.
Oui, même avant la découverte du trou d'ozone, parce qu'elle n'a eu lieu qu'en 85. Dans les années 70, les travaux de Paul Crutzen, de Roland, de Molina, etc., ont mis en évidence l'attaque par les nitrates et les chlores de l'ozone. Et vous vous souvenez de l'histoire, enfin vous vous souvenez pas parce que vous étiez trop jeune, du problème du Concorde qui, disons, enfin, les détracteurs allaient détruire la couche d'ozone. Alors, évidemment, nous avons immédiatement travaillé sur les problèmes de la couche d'ozone, et notamment, j'ai travaillé sur l'étude des poussières émises par le Concorde, mais au service d'aéronomie, ça a été une nouvelle activité qui a vraiment beaucoup démarré. Meiji a été en grande partie responsable de toute l'activité autour de l'ozone dans les années de 70 à 85. Donc, on a également développé des lidars ozone à cette époque-là. Et il faut savoir que l'ozone est très couplé à la température. Et donc, on a mis finalement au point toute une série de mesures LIDAR qui permettaient de surveiller l'ozone et les paramètres qui ont une influence sur lui. Donc, tout cet ensemble de mesures forme un ensemble qui est utilisé maintenant à l'échelle internationale dans un réseau de surveillance à long terme.
Alors finalement, vous avez travaillé de 1958 jusqu'à 1985 avec la même équipe, le même service.
En grande partie, il est intéressant. Bon, au début, il y avait relativement peu de gens, mais dès qu'on a pu embaucher un certain nombre de techniciens et d'ingénieurs, il s'est formé une équipe autour du LIDAR à partir des années 66-67, qui est restée la même pendant 30 ans. Et c'est assez extraordinaire parce qu'on a eu une véritable équipe qui se tenait, qui se complétait. Et je leur rends vraiment hommage parce que c'est grâce à cette cohérence et cette bonne entente dans l'équipe qu'on a réussi à faire quelque chose d'assez unique.
Et avec des travaux qui étaient... Alors, je sais très bien qu'il y a heureusement une entente entre scientifiques pour faire des recherches, il y a une émulation. Vous avez travaillé, je crois, avec les Russes pendant la guerre froide. Et puis après, il y a eu l'Europe, le traité de l'Europe, qui a fait que les recherches ont été plutôt européennes.
Oui, c'est une question très intéressante que vous me posez parce que au début, dans les années fin des années 50 et années 60, nous ne travaillions qu'avec les Américains. Presque, et c'était pas seulement les Français, tous nos amis, nos collègues européens étaient dans le même cas que nous. L'Amérique était quand même l'endroit où il y avait le plus de moyens et nous avons beaucoup travaillé avec les collègues américains. Et puis, nous avons travaillé avec les Russes très rapidement. Blamont a très vite établi des rapports avec la communauté soviétique et nous avons été invités dès 66 même. Je suis allée à Moscou pour commencer un programme de travaux qui s'est prolongé, qui se prolonge encore en fait, avec les soviétiques. Mais à partir du moment où le programme de recherche européen s'est mis en place, le fameux programme PCRD, nous avons commencé à travailler entre Européens, en invitant éventuellement les Américains. Mais ça a complètement changé notre façon de travailler et nous nous sommes retrouvés, nous sommes découverts finalement, une communauté européenne très compétente et avec des moyens que l'Europe mettait en place. Ça a beaucoup changé notre façon de travailler.
Mais c'était plutôt une bonne chose ou
C'était une très bonne chose. D'abord, ça nous a permis de voir que l'Europe savait du bon, que tous les gens qui ont travaillé dans ce cadre-là sont très européens. Nous nous sentons plus européens qu'autre chose. Et donc, ça a été un atout.
Et vos travaux, le service aéronomie était pionnier en la matière par rapport aux Américains ou aux Russes aussi, qui ont aussi développé des lasers?
Par rapport aux Russes, nous leur avons appris, nous leur avons apporté nos techniques. Par rapport aux Américains, il y avait une ou deux équipes qui a commencé à travailler à peu près en même temps que nous. Je crois qu'ils y ont mis moins d'efforts. La France, aidée en grande partie par le CNES, qui a mis des gros moyens pour nous aider, a quand même marqué la discipline d'une façon qui est peut-être unique.
En 1985, vous faites le choix de vous tourner vers autre chose. C'est-à-dire que pendant 30 ans, vous avez travaillé avec ces équipes et puis vous décidez de tourner la page.
Je ne tourne pas vraiment la page parce que les travaux continuent. L'activité LIDAR était tellement enthousiasmante qu'il n'était pas question de l'arrêter. Mais c'est un peu normal qu'après un certain nombre d'années de recherche, on ait envie aussi de faire autre chose. Et se mettaient en place à ce moment-là les grands programmes, par exemple le programme Géosphère Biosphère. J'ai eu la chance d'être invitée à faire partie du premier comité qui le mettait en place. Donc cela m'a fait rentrer dans une mouvance internationale liée au grand programme sur le climat. Et ceci m'a donné d'ailleurs l'idée de créer moi-même un de ces programmes qui voulait étudier le rôle de la stratosphère dans le changement climatique. Et c'est ainsi qu'en 1992, j'ai proposé au Programme mondial de recherche sur le climat le programme SPARC qui étudiait l'impact de la stratosphère. Alors évidemment, ça m'a fait rentrer plus dans l'administration de la recherche, disons l'organisation de la recherche, que la recherche elle-même, tout en continuant à superviser mes étudiants et à les encourager à continuer. Et ceci a continué pendant quelques années encore.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause. Dans la troisième partie, nous aborderons plus en détail les comités scientifiques auxquels vous appartenez. À tout de suite. Suite de notre émission En habit vert, toujours en compagnie de Marie-Lise Chanin. Dans cette troisième partie d'émission, Marie-Lise Chanin, juste avant de marquer une pause, vous avez commencé à évoquer effectivement les comités scientifiques auxquels vous appartenez, et notamment la création du SPARC. C'est vous qui avez créé ce Stratospheric Processes and Their Role in Climate, donc vous avez dirigé pendant 12 ans, et qui est donc l'équivalent en fait de ce que nous on connaît peut-être un peu plus, qui est l'IPCC, qui travaille avec le GIEC.
Oui, en fait, le GIEC n'est pas un programme de recherche. Le GIEC bénéficie des travaux qui sont faits par le Programme mondial de recherche sur le climat et qui remet ses conclusions tous les 5 ans à une communauté de scientifiques qui les analyse et sort un document qui est destiné aux politiciens, disons. Donc le WCRP était un programme qui a été créé en 80, par un Français d'ailleurs, Pierre Morel, et qui, alors qu'on parlait beaucoup des problèmes d'ozone, ne comportait aucune composante sur la stratosphère. Le problème de l'ozone a pourtant été le premier à faire l'objet d'un protocole, le protocole Montréal, et il ne faisait pas partie des grands programmes climatiques. Nous nous réunissions déjà sous d'une façon qui ressemble beaucoup à ce que le GIEC a fait ultérieurement, mais ça ne rentrait pas dans le programme climatique. Et donc l'idée m'est venue de proposer un programme qui n'allait pas, non pas étudier le problème de l'ozone, qui était quand même déjà relativement bien élucidé à cette époque-là, mais de regarder en quoi la stratosphère pouvait avoir un impact sur la troposphère et réciproquement. C'est-à-dire le couplage entre ces deux régions ne faisait pas l'objet d'une étude au sein du programme mondial de recherche sur le climat, et je pense que ça manquait. Donc ce programme a été accepté en 92 et on a trouvé énormément de choses sur de relations entre les deux régions de l'atmosphère qui ne sont pas vraiment séparées parce qu'il n'y a pas une barrière étanche entre les deux, et ceci permet de mieux comprendre finalement ce qui se passe dans les basses couches de l'atmosphère qui intéresse plus la société, mais dont on a besoin de comprendre le comportement. Le problème de l'ozone est a priori différent du problème du climat, puisqu'il s'agit d'une destruction chimique de l'ozone. Mais quand l'ozone est modifié, il influence le climat parce que l'ozone piège le rayonnement ultraviolet, modifie la température de la stratosphère, qui donc a un impact sur la température de la troposphère. Et donc, il y a un couplage qui fait qu'il y a effectivement une composante qui est commune au problème de l'ozone et au problème du climat et du réchauffement climatique. Donc, c'est cette composante-là qui faisait l'objet de l'étude de SPARC.
Spark, vous l'avez dirigé pendant 12 ans. Vous avez
Je l'ai créé et co-dirigé avec un collègue américain. Et le bureau était installé au service d'aéronomie. Et donc, je l'ai, disons, dirigé avec plaisir. C'était un peu mon bébé. Et donc, on a beaucoup de peine à s'en séparer. C'est moi qui ai décidé de donner ma démission pour qu'il y ait un renouvellement, en fait, des responsables. Mais ça m'a été un petit peu difficile. Mais ceci étant, pendant toute l'époque où j'ai dirigé Spark, j'ai continué à m'intéresser aux recherches que j'avais amorcées, parce que les recherches sont quelquefois des recherches à long terme qui n'étaient pas terminées, évidemment, quand j'ai commencé à m'intéresser à Spark. Et notamment, il y a toute une partie dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est qu'en m'intéressant au LIDAR, qui étaient donc des opérations à partir du sol, je n'avais pas abandonné la recherche spatiale pour autant, et que dès le début des années 70, au moment où on a commencé les LIDARs, on a tout de suite pensé qu'on allait mettre ces engins en orbite et qu'on allait un jour les faire avoir des mesures à l'échelle globale. Et donc c'est en 86 seulement qu'un des projets que j'avais proposé aux Soviétiques à l'époque et qui a volé du temps des Russes a réussi à voler, et c'est le LIDAR ALISSA qui a permis de démontrer la faisabilité d'un LIDAR détecteur de nuages dans la haute atmosphère. Alors, les mesures n'ont pas été à la hauteur de nos espérances parce que la technique n'était pas tout à fait aussi au point qu'on l'aurait voulu, mais elle a permis d'amorcer finalement une lignée qui maintenant démontrait ses capacités avec le LIDAR Calypso. Et d'autre part, dans les prochaines années, il y aura des vols de satellites embarqués en des LIDAR, notamment un LIDAR qui est issu d'un LIDAR que j'ai imaginé moi-même, qui est le LIDAR qui mesure le vent, le LIDAR Doppler, et qui doit voler l'année prochaine, le LIDAR ADM Aeolus. Donc, vous voyez, on n'abandonne jamais la recherche, même si en même temps, on s'intéresse à autre chose.
On ne prend jamais sa retraite.
On ne prend jamais sa retraite, d'ailleurs, parmi mes collègues, je m'aperçois que c'est classique.
Avant la pause, vous aviez aussi évoqué rapidement le programme international Géosphère-Biosphère.
Oui, c'est un programme complémentaire du programme mondial de recherche sur le climat. Justement, le programme mondial de recherche sur le climat est un programme qui s'intéresse à l'aspect physique du climat, mathématiques et physiques du climat. Et le programme Géosphère-Biosphère lançait une composante, en fait, au moment où ça a été fait en 86, une composante plus chimique et biosphérique. C'était le rôle de la biosphère dans le climat. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'avais pensé faire rentrer la stratosphère, parce qu'il y a de la chimie, évidemment, dans le devenir de l'ozone. Mais finalement, c'est le programme mondial de recherche sur le climat qui l'a accepté. Mais les deux sont complémentaires. Et il y a à l'heure actuelle de plus en plus de travail en commun entre le programme mondial de recherche sur le climat et le programme Géosphère-Biosphère, parce qu'ils se complètent et souvent se chevauchent. Le GIEC, finalement, les résultats qui sont étudiés dans le GIEC proviennent de ces deux programmes essentiellement. Tout au moins la partie, le Working Group 1 du GIEC qui s'intéresse aux données scientifiques. Donc les deux programmes, un jour ou l'autre, se marieront et aboutiront à un seul programme, mais ils sont complémentaires.
Aujourd'hui, à quoi vous intéressez-vous, Marie-Lise Chanin ? Parce que, bon, effectivement, vous n'êtes pas à la retraite.
On ne peut pas ne pas s'intéresser à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, à la fois au changement climatique, parce que c'est évidemment quelque chose que l'on voit se réaliser, en fait. On voit les conséquences déjà apparaître.
Vous appartenez, j'imagine, à un comité ici à l'Académie des sciences.
Il y a le comité de l'environnement qui a fait plusieurs rapports sur la question. Et nous suivons de près. Nous avons mis au point un livre de l'environnement, d'ailleurs, qui répond aux grandes questions que se posent les gens sur les questions d'environnement et de climat. Mais on ne peut pas s'intéresser qu'au problème du climat, parce que le changement climatique dans les prochaines décennies n'est pas le seul auquel on va assister. Je crois que la société a beaucoup changé. Il va falloir se rendre compte que la planète est limitée quant à ses ressources. Et non seulement on a attaqué l'atmosphère, on commence à attaquer ces nappes phréatiques. Donc le problème du climat, le problème de l'eau, le problème de l'énergie, le problème des ressources d'une façon générale sont des problèmes que je considère comme vraiment devant être pris très au sérieux.
Et sur lesquels vous vous penchez à travers
les différents comités auxquels j'appartiens et aux nombreuses lectures et témoignages que l'on peut avoir à donner à droite et à gauche.
Pour terminer, Marie-Lise Chanin, lorsque nous nous étions rencontrés une première fois, vous m'aviez expliqué qu'une chose peut-être rare, c'était que vous ne sortiez pas de grande école, vous sortiez de l'université. Et vous m'aviez dit que c'était pas si commun que ça.
C'est-à-dire, dans l'équipe Blamont et les quatre normaliens, tout le monde étant normalien, moi j'étais la seule sortant de l'université. Et donc, c'est vrai que ça ne rend pas que des services, parce qu'il y a quand même des écoles, il vaut mieux sortir de l'excès de normal pour faire une carrière universitaire de premier plan. Ceci étant, c'était une question de hasard, finalement de situation au moment où on fait ses études. Et bon, j'en ai souffert un petit peu, mais j'ai assumé.
Si je vous posais la question, c'était aussi pour aborder la question de Jacques Blamont. Sous les yeux, j'ai deux ouvrages. Le premier, Symposium, en l'honneur du 70e anniversaire de Jacques Blamont. Vous aviez la direction, paru aux éditions du CNRS, CNRS Éditions, sur lequel, en fait, il y a une série de témoignages consacrés à Jacques Blamont. Une série de témoignages dont le vôtre, en fait. Hein. Vous avez écrit l'introduction, notamment de cet ouvrage. Pourquoi avoir réalisé un symposium en l'honneur de Jacques Blamont ?
Blamont est un créateur et continue à l'être. Et en mettant, disons, en lançant la recherche spatiale en France, il a marqué d'une pierre blanche vraiment la recherche française. Alors quand, lors de son 70e anniversaire, tous ses collaborateurs, ses amis ont voulu le célébrer d'une façon importante, et donc nous avons organisé une réunion, un symposium à l'École normale. Et la plupart de ses collaborateurs ont pris la parole et ont parlé de leurs travaux, notamment dans le cadre de leur coopération avec Blamont. Il y avait ses élèves, mais aussi des collègues américains, et puis des Français qu'il connaissait bien, comme Hubert Curien, comme Allègre, qui a ouvert la séance, puisqu'il était ministre de la Recherche à l'époque. Donc, c'était un événement important. Et nous avons voulu éditer ce livre. Et bon, il se trouve qu'il n'avait pas été édité à cause du décès de Mégy. Donc j'ai profité du 50e anniversaire du service d'aéronomie, qui a donné lieu à un autre ouvrage intitulé L'école de l'espace, pour publier en même temps cet hommage à Jacques Blamont. Je crois que c'était un plaisir pour moi de le faire et que lui a vraiment apprécié.
Je vais citer quelques mots de Jacques Blamont. « Ma carrière a connu de grands moments, la découverte du vent interstellaire, la première vision de l'enveloppe des comètes, les vols des ballons dans l'atmosphère de Vénus, la Lune entourée d'un satellite portant mon compresseur d'images, bien des travaux que j'ai menés par caprice, parce qu'ils m'amusaient, ont engendré des conséquences importantes et inattendues comme l'étude du sodium crépusculaire, d'où sont sorties entre autres la mise en évidence de la turbopause d'une part et le développement du lidar d'autre part. » Il explique qu'il s'est amusé. Est-ce que vous aussi vous êtes amusé pendant...
J'ai toujours dit ça dans presque tous les discours que j'ai faits, notamment quand je recevais un prix ou une décoration. Ça a été ma grande motivation. En fait, je n'ai pas fait une carrière avec une ambition de devenir prix Nobel. J'ai fait une carrière en m'amusant. Bon, c'est de la chance. Je crois que Blamont nous a transféré un microbe qui était le microbe de la recherche, en fait. Et tous les gens qui ont travaillé avec lui ont ce microbe. On a très peu ont quitté la recherche. Et quand ils l'ont quitté, c'était pour arriver à des fonctions de très haut niveau. Donc, il nous a vraiment donné l'amour de la recherche. Et de cela, je lui en suis très reconnaissante. Je pense qu'il y a beaucoup de ses élèves qui en sont très reconnaissants.
Vous le disiez il y a quelques instants, vous citiez l'autre ouvrage, « L'école de l'espace, le service d'aéronomie 1958-2008, histoire et sciences », paru aussi aux éditions du CNRS, donc qui fête les 50 ans, du service aéronomie, qui a changé de nom depuis, qui s'appelle l'Atmos.
Le Latmos, oui. Mais la motivation scientifique, l'enthousiasme des premières années s'est éteint avec ces 50 ans. Et je suis très contente qu'on ait fêté vraiment avec beaucoup, beaucoup de succès ces 50 ans, parce que c'était vraiment la fin d'une époque. Enfin, c'est mon point de vue. Vous me direz que c'est parce que j'ai vécu cette période-là d'enthousiasme que peut-être je le vois comme ça et que les jeunes ne le voient pas de la même façon. Mais je suis très heureuse qu'on ait écrit ce livre et qui fait effectivement le bilan des 50 années et qui... finalement est très très riche de souvenirs et de résultats scientifiques.
Un demi-siècle d'histoire de science.
Oui, histoire de science et surtout de science qui démarrait à ce moment-là et qui ont connu un grand développement. Bon, il y a des domaines où la science était déjà en marche dans les années 50. Là, c'était vraiment quelque chose qui commençait.
Allez, je redonne pour la forme les deux titres des ouvrages que vous avez dirigés. L'école de l'espace, le service d'aéronomie 1958-2008, histoire et sciences parues aux éditions du CNRS. Et puis le deuxième, symposium en l'honneur du 70e anniversaire de Jacques-Émile Blamont, paru également aux éditions du CNRS.
Je vous remercie. Merci Elodie.